With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bonjour à toutes et à tous, c'est François Lay et bienvenue dans ce 58e épisode. J'ai reçu à distance Benoît Vasseur, cofondateur de The Tribe, une agence de développement web et mobile pas comme les autres. L'agence a été créée avec deux révoltes. Les agences et les ESN vendent des jours alors qu'elles devraient se concentrer sur la valeur pour les clients et les utilisateurs. Et les salariés dans les boîtes classiques sont réduits à leurs fonctions alors que ce sont des personnes. Leur objectif, accompagner chaque client et chaque salarié à entreprendre les projets qui les épanouiront. The Tribe, c'est plus de 95 salariés, plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et le recrutement de 70 nouveaux salariés pour 2022. Attention, je vous préviens, cet épisode est à forte valeur ajoutée. Dans cette conversation avec Benoît, vous pourrez écouter et découvrir son parcours avant d'entreprendre et le déclic qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, sa première aventure entrepreneuriale, son année pour une ONG au Congo, la création de The Tribe en 2014, comment construire et développer une culture forte dans son entreprise, comment ont-ils trouvé leur raison d'être, ou encore l'importance de mettre en avant ses valeurs, et aussi de les trouver. J'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode qui sera intégralement disponible en vidéo sur YouTube. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify si le podcast vous plaît, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode des Serial Entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer, et de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur avec un S et le tiret du bas à la fin. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Je suis ravi de t'accueillir, et puis effectivement je pense que ça va être très sympa et qu'on aura pas mal de sujets à aborder ensemble. Je commence chaque épisode avec le parcours de l'entrepreneur, une partie qui est hyper importante parce que c'est là aussi où se font un peu les bases, on va dire, hein, du mindset notamment. Et j'aimerais savoir dans quel environnement tu as grandi.
Alors moi j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Mon père est agriculteur, mes grands-parents sont agriculteurs, mes arrière-grands-parents sont agriculteurs. Notre histoire familiale est un peu compliquée. Enfin, tu vois, mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et du coup, j'ai pas mal passé de temps dans la ferme de mon oncle, un oncle qui faisait de l'élevage de laitier. Et du coup, franchement, c'est un métier qui est compliqué. Et il était beaucoup amené à se réinventer. Tu vois, il s'est lancé dans les yaourts, dans le beurre, dans la crème glacée, voilà. Et du coup, en passant énormément de temps, tu vois, je passais toutes mes vacances, etc. J'ai pris goût à ça, en fait. Je suis tombé dans le virus de l'entrepreneuriat par ce truc-là, quoi. Et il se trouve, tu vois, que maman, qui a bien connu les galères des entreprises agricoles, entre guillemets, m'a élevé en me disant faut pas forcément que vous alliez là-dedans, c'est une galère, quoi. Et donc du coup elle nous a plutôt elle était instite, hein, plutôt poussé à faire des études, à se bouger pour s'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai fait une école d'ingé, et puis après en fait j'ai jamais été salarié, c'est parti comme ça.
Ça a été quoi le déclic vraiment, ou le jour où tu t'es dit j'ai envie de monter une boîte? Est-ce que ça s'est fait naturellement, ou est-ce que je sais pas, un jour en particulier, tu as eu un peu cette révélation de se dire il faut que je monte un truc?
Je pense que j'avais un peu ça en moi, tu vois. Enfin, ma mère me raconte souvent un truc, c'est que en CM1, j'avais fait un truc qui l'avait vachement étonné. J'avais photocopié plein de coloriages, et donc elle savait pas pourquoi. Et du coup, je m'amusais à les vendre à mes petits copains de classe. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Et je pense que bon, ce qui a fait vraiment le déclic, c'est la première année d'école d'ingé, où tu vois, ils font ça en première année, t'as des confs de gens qui font des métiers différents et qui, enfin, en gros, ça inspire, quoi, ça donne envie. Et donc à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui montait sa start-up, qui était là pour présenter un parcours que j'ai suivi qui s'appelle HEC Entrepreneur. Il nous racontait, il était vraiment, tu vois, pris par le truc, son aventure, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux monter une boîte, je sais pas trop dans quoi. Et puis en fait, en parallèle, j'ai vachement été attiré par les métiers de l'informatique. J'ai fait, quand j'étais à l'école, je faisais les sites internet, tu vois, des assos. Et ça, en fait, j'ai joint les deux passions. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en regardant les sites internet des assos, je pensais tout le temps aux applications business. Et tu vois, c'était un peu quelque part une fixation, quoi. Je me souviens que quand j'étais en troisième année d'école, dans l'option info, et ben en fait, t'en as qui me disaient, mais arrête de nous souder avec tes idées de boîte à monter, là. Enfin, fais-le et puis tu reviendras nous en parler quand tu l'auras fait, quoi.
Ok. Et est-ce que tu as eu des expériences dans le salariat avant de lancer ton premier projet ?
Non, j'ai jamais été. Enfin, la première aventure est un peu particulière parce que j'étais à la fois associé et salarié. Donc, enfin, je sais pas si ça compte, mais en tout cas, j'ai toujours été dans des boîtes où j'étais actionnaire, quoi.
Et est-ce que tu veux me parler du coup de ce premier projet ?
Ouais, ben en fait, quand j'étais du coup HEC Entrepreneur, j'ai rencontré deux mecs qui montaient leur boîte, Arthur et Guillaume. Et donc à l'époque, c'était un moteur de recherche solidaire, c'est-à-dire un moteur de recherche qui reverse 50% de ses revenus à des associations. Et du coup, donc c'était quasiment au stade de l'idée, quoi. Ils en étaient un peu plus loin, ils avaient fait la première version. Et du coup, moi, je les ai rejoints à ce moment-là. Ils avaient besoin d'un profil plus qui aimait la tech, quoi. Donc ils étaient deux profils plus école de commerce. Et donc c'est la première aventure. Donc moi, je m'occupais des ingés, quoi. Et assez vite, en fait, on a pivoté. Donc on était trois associés, en fait, dans cette boîte. Ça s'appelle Doolead, ça existe toujours. Si tu veux, VO Search, on l'a fait pivoter. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été un peu contraint à le faire puisque on avait un partenariat avec Google, c'était Google derrière le moteur de recherche, et Google a rompu son partenariat en 24 heures ou 48 heures, et du coup on s'est retrouvé avec du trafic, hein. On avait en pic, on avait 16 000 connexions simultanées, donc si tu veux, ça marchait bien, quoi. On commençait à avoir une traction commerciale et tout, et du jour au lendemain, on reçoit un email de Google qui dit stop, c'est fini, quoi. Et donc à ce moment-là, on a connecté, tu vois, ça c'était 2009, et on a connecté Yahoo, qui avait aussi un service en marque blanche, et là on a perdu tous nos users, quoi. Ça a été la catastrophe. Si tu veux, la proposition de valeur n'était pas suffisamment forte pour retenir les gens sur une expérience de search qui n'était pas ouf, quoi.
Ouais. Une grande partie de votre produit dépendait du moteur derrière, quoi.
Ouais, je me suis dit ne jamais lancer un business sur quelque chose que tu ne fais pas.
Surtout sur Google.
Ouais, exactement. Ouais. Et donc, ce qu'on a fait à cette époque-là, on a eu de la chance, c'est que on venait de lever. On venait de lever 700 000 balles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un de nos actionnaires qui avait une régie pub est venu nous voir en disant « J'ai un super site en régie, mais je sais qu'ils sont à vendre et nous, on n'a pas de thunes pour le racheter. » Est-ce que ça vous intéresserait pas de le racheter, quoi? Donc ça s'appelait ID Maison à l'époque, idmaison.com. Et du coup, sur ce business-là, on a découvert un truc. Enfin, on a découvert une manière de monétiser un média, quoi. Donc c'est un média qui faisait des visites. Hein. Quand on l'a racheté, ça faisait 300 000 visites mensuelles. Donc c'était pas non plus incroyable. Et donc on a fait deux choses. On a changé la monétisation. Donc c'est un univers de bricolage, ID Maison. Et donc on a poussé, tu sais, des formulaires de demande de devis où tu peux, quand t'es particulier, en gros, tu peux faire une demande de mise en relation avec des artisans. La proposition de valeur, c'est gratuit pour toi et on va mettre ta demande, on va la mettre en relation avec trois artisans et ces artisans, en fait, nous payer. Et donc ça nous a fait franchement récupérer de l'oxygène sur le business qu'on venait de racheter. Tu vois, on a multiplié par deux les revenus. Et puis on a fait un autre truc, c'est que on a augmenté le référencement naturel. Et donc moi j'avais des skills là-dedans, puisque quand j'étais en école, alors surtout en école de commerce, quand j'étais à HEC Entrepreneur, et ben je faisais des petites prestations de freelance. Enfin c'est un univers qui m'a toujours passionné, quoi, récupérer du trafic sur des sites que tu crées. Et du coup on a fait finalement une super opération, quoi, en multipliant par deux le revenu et en multipliant par deux le trafic, tu vois, on a bien boosté le truc. Et en fait, tu vois, toujours dans cette idée de on a découvert quelque chose de dingue que les autres connaissent pas, on s'est dit que ces formulaires, on pouvait les mettre sur d'autres sites, et donc on a commencé à lancer une techno publicitaire qui faisait ça automatiquement, parce que c'était quand même assez chiant de connecter en fait les pages au formulaire. On a fait un petit bout de JavaScript, enfin sans rentrer dans les détails techniques qui ennuieraient tout le monde, hein. On a fait un petit bout de code qui adapte le formulaire automatiquement au contexte de la page. Et ça, c'était à la fois passionnant techniquement, et puis le business était vachement intéressant. Donc super. Et puis au bout d'un moment, en fait, on est arrivé assez limité, parce que ce qui marchait bien sur cet univers de lead, c'était les travaux. Finalement, c'était un univers, on pensait que c'était généralisable. On a fait pas mal de tests, notamment, tu vois, des tests pour pousser des leads sur la formation professionnelle. Et puis ça a pas bien marché. Donc voilà. Et puis en fait, on a découvert autre chose à ce moment-là. On travaillait beaucoup avec des éditeurs, hein, donc avec des gens dont le métier c'était de lancer des médias en ligne. On est tombé dans une micro niche. En fait, il y avait quelques-uns de ces éditeurs qui avaient des annuaires, et donc c'est pas forcément le moment le plus glorieux que je retiens, mais à ce moment-là, il y avait un sujet sur comment tu fais pour monétiser ces annuaires. Et donc là, on a lancé une techno qui permettait à des éditeurs, tu vois, de transformer leur numéro en 0,899 là, et du coup de gagner des revenus publicitaires sur les annuaires. Donc concrètement, un particulier qui voyait un annuaire pouvait cliquer sur un bouton pour être mis en relation, il avait accès à un 0,899 qui est un appel surtaxé, en fait, où t'as 1 € qui est pris par appel. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est un truc qui a hyper bien marché et qui nous a donné une bouffée d'air. Je suis pas fier de ça, parce que c'est pas un métier à grande valeur ajoutée. Après, tout était hyper explicite pour les internautes, hein. Mais tu vois, je me suis rendu compte d'un truc à ce moment-là, c'est que c'était important pour moi de créer de la valeur pour les internautes, quoi. On était dans les années folles, hein, 2010, où t'avais plein de business à monter. Et voilà. Bon, assez vite, en fait, on a perdu des parts de marché, parce que t'avais des acteurs qui étaient très très agressifs sur le domaine, comme RentabilityWeb, par exemple. Et puis au bout d'un moment, en fait, on s'est repositionné sur la génération de leads. On s'est dit que c'était intéressant et qu'on avait un certain savoir-faire. On faisait en parallèle de ce qu'on faisait avec les éditeurs. On faisait de l'acquisition sur Google Ads pour générer des leads. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qu'on commençait à savoir-faire, qui était d'automatiser, tu sais, la gestion des campagnes Google Ads. Et donc, on a lancé un business là-dedans, quoi.
Ok, donc pas mal de projets justement pour tester, pour tester des choses, quoi.
Ouais, et du coup maintenant le métier de lead, c'est de faire ça, hein, c'est de piloter automatiquement des campagnes Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads, etc. Ou d'avoir un dashboard unifié qui permet de piloter ces campagnes publicitaires et de bider automatiquement. Enfin, il y avait cette idée d'ajuster les enchères vraiment en fonction d'éléments de contexte. Par exemple, quand il pleut, t'as certains univers qui marchent beaucoup moins bien, en fait. Tu vois, ce genre de choses.
Et t'as revendu cette société, du coup?
L'histoire est un petit peu plus compliquée que ça. C'est pas linéaire. En fait, à ce moment-là, on n'était pas hyper alignés, mes associés et moi, sur plein de choses, en fait. À la fois sur le business, et puis, au fond, moi, j'ai eu un sujet d'alignement, enfin, sans vouloir trahir l'histoire. Hein, je m'entends hyper bien avec eux et tout, mais... J'ai senti qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde en termes de valeur, et puis s'est passé un truc dans la boîte que je peux pas forcément divulguer par respect pour les personnes, mais qui nous a fait encore plus constater qu'on n'était pas alignés, quoi. Et donc à ce moment-là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé le voir et je leur ai dit, bon, les mecs, on a vécu des super moments ensemble et tout, je sais que je veux partir, par contre je le ferai pas n'importe comment, c'est important pour moi parce qu'on a traversé beaucoup de choses, et je prends 1 an pour partir. Et du coup... bah de là on s'est organisé, tu vois, c'était fair play des deux sens. Donc moi j'avais un peu le deal de trouver mon successeur et du coup une période pas forcément hyper simple parce que rester un an dans une boîte que tu sais que tu vas quitter en ayant l'âme d'un entrepreneur, enfin pour moi c'était, tu me posais la question de tout à l'heure de est-ce que tu as jamais été, est-ce que tu as déjà été salarié, cette période là j'ai trouvé hyper dur. Au fond j'étais dedans sans être dedans quoi. Et donc j'avais plein d'idées de trucs à monter.
Tu visualises la deadline et en fait pendant cette période t'es là sans être là en fait, t'es là physiquement mais t'es pas du tout là dans ta tête quoi.
Ouais c'est ça, et puis en fait je pense que j'avais une vision sur la génération de leads qui du coup, enfin j'ai, si tu veux, au moment où on a acté un peu le divorce entre mes associés, bah, ils ont pris une voie que j'aurais pas forcément prise. Et du coup, bah là, en fait, c'est encore plus dur parce que tu dois en même temps bosser sur une vision qui est pas la tienne, etc. Bon après, c'était pas catastrophique, hein, tu vois, j'ai mis du temps à retrouver mon successeur, à le former aussi parce que l'équipe avait pas mal grandi. À la fin, quand je suis parti, t'avais 10 ingés. Donc, et il y avait quand même pas mal de legacy, il y avait pas mal de trucs tu vas connaître, etc. Et puis, assez vite, on s'est bien entendu avec Arthur et Guillaume. Et en fait, je me suis mis sur un nouveau projet que j'ai piloté moi. Tu vois, plus sur les aspects techniques, pas sur les aspects fonctionnels. Mais du coup, ça me laissait quand même vachement de marge de manœuvre pour fonctionner un peu indépendamment et pas être malheureux quoi. Et puis finalement je suis parti au bout de 8 mois parce que tu vois mon successeur était bien formé et tout et a pu prendre les rênes, donc ça s'est fait de manière assez fluide quoi.
Et après cette fin un peu complexe, comment est-ce que tu rebondis et vers quoi?
Bah tu vois en fait c'était l'année où je me suis marié, donc pendant notre préparation du mariage, on s'est dit que ce serait important pour nous de se barrer, de faire un truc un peu différent. Et donc, du coup, on s'est barré un an. On est parti avec une petite ONG qui s'appelle Fidesco. Et on s'est barré un an en mission humanitaire au Congo. Et là, c'était vraiment dingue parce que, si tu veux, il y avait la mission qui était prévue pour nous. Et puis, sur place, il y avait beaucoup de marge de manœuvre pour faire... Enfin, en fait, ils étaient très ouverts. On a eu cette chance, quand on y était, de pouvoir un peu définir ce qu'on allait vraiment faire, quoi. Tu vois, on a travaillé pour une œuvre qui s'occupait d'enfants de la rue. Donc, leur job, c'était de faire en sorte de sortir les enfants de la rue, de les re-sociabiliser, de leur apprendre un métier, et voilà, par le métier, en fait, de s'en sortir, quoi. Surtout dans une société au Congo, si tu veux, quand t'as plus de famille, quand t'es à la rue, en fait, enfin, la structure de société, elle est basée sur la famille. Quand t'as plus de famille, en fait, t'es plus personne, quoi. Ton identité, c'est presque l'identité du groupe, quoi, en tout cas, là où on était, quoi. On était à Lubumbashi, dans l'est du Congo. Et donc, tu vois, finalement, on passait une demi-journée par semaine dans les centres. Ma femme s'occupait de trouver de l'argent pour les centres. Il y avait 20 000 enfants, hein, donc c'était gros. Et puis, moi, assez vite, ils ont compris que j'étais entrepreneur, etc. Et il y avait ce sujet, à ce moment-là, les aides, on était après 2008, les aides, elles diminuaient. Et donc, il fallait qu'ils trouvent des sources de génération de revenus directement dans les centres. Et là, à ce moment-là, je me suis occupé de faire en sorte de rentabiliser les centres de production agricole. Enfin, tu avais 3 fermes écoles qui faisaient 150 hectares. 150 hectares, en France, c'est une petite ferme. Et en fait, là-bas, comme tu n'as rien qui est mécanisé, tu peux avoir 50, 60, 100 personnes qui travaillent sur une ferme de 150 hectares. Et du coup, ce qu'ils faisaient avec les légumes, c'est que ça servait à nourrir les enfants qui étaient dans les centres, ce qui était une bonne chose. Mais si tu veux, moi ma mission, ça a été un truc super, c'était de dire comment on peut être malin pour que à la fois ça nourrisse les enfants dans les centres, mais en plus ça dégage des sources de revenus complémentaires, quoi. Et donc ça, c'est moi qui l'ai vu en fait, tu veux. Et donc ce qu'on a commencé à faire, c'est produire des trucs qui coûtaient assez cher en fait, qui étaient importés d'Europe, d'Afrique du Sud, etc. Et donc on a fait des trucs marrants, quoi. On a par exemple implanté le fruit de la passion au Congo. Donc t'avais des fermes, tu vois, qui étaient clôturées. Et ce qui était rigolo, c'est que, c'est une plante qui est rampante, le fruit de la passion. Tu vois, j'ai eu l'idée en allant en allant au supermarché, tu avais un supermarché à Lubumbashi. Le reste, c'était des marchés. Et donc, j'ai vu que les fruits de la passion étaient à 15 dollars le kilo. Si tu veux, le SMIC local, il est à 150 dollars. Donc, en gros, un kilo, c'est 10% du SMIC, quoi. Donc, je me suis dit, putain, il y a un truc vraiment à craquer, quoi. Et donc, du coup, sur une ferme qui avait des clôtures, on a planté tout autour de la ferme des fruits de la passion, quoi.
C'est fou comme projet. T'es resté combien de temps au Congo ?
Je suis resté un an. Bon, j'ai fait plein d'autres trucs, hein.
Okay.
La deuxième mission, c'était de donner des cours en école d'ingé. Et là, j'ai donné des cours d'entrepreneuriat. J'ai fait un truc assez rigolo. C'était des promos de 350. Je les mettais par groupe de 6 et je leur filais 15 dollars par groupe. J'avais vu une expérience qui avait été faite à Stanford avec des groupes d'étudiants où, grosso modo, c'était des montants qui étaient beaucoup plus importants. Mais en fait, j'ai voulu tester par moi-même, quoi. J'avais pris la même proportion par rapport au SMIC, tu vois. J'aurais distribué la même chose. 10% d'un SMIC. Et du coup, je leur avais dit, vous avez un mois, vous vous démerdez pour gagner le plus d'argent possible avec cette somme-là. Quoi. Et du coup, les revenus serviront à faire une grosse stuff à la fin de la journée. Donc, on a fait ça. Et à vrai dire, il y a eu des trucs assez incroyables. Enfin, qui à l'époque m'ont paru incroyables, si tu veux. C'est pas des trucs rocket science, mais suffisamment pour que des étudiants après lancent leur business. On a eu par exemple un groupe qui s'est mis à aller dans les boîtes, prendre les tours d'ordinateur, là c'était beaucoup de PC fixes, aller dans les cybercafés, faire les mises à jour de Windows et puis ramener les tours et y facturer 2 à 5 dollars en fait. Et du coup, ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. T'as eu un étudiant qui m'a fait beaucoup marrer parce que il était pharmacien à la base et il était parti en école de commerce. J'ai donné ça aussi en école de commerce parce que comme ça a bien marché en école d'ingé, l'école de commerce d'à côté est venue me chercher. Et du coup, donc un pharmacien qui a fait le tour des pharmacies. Et du coup, j'avais donné un cours de marketing sur comment bien présenter un magasin, quoi, comment faire de l'upsell en étant un peu malin parce que c'était pas très développé. L'achalandage n'était pas hyper développé au Congo, donc il disait les trucs qui coûtent pas cher près de la caisse, quoi, et qui donnent envie tout de suite. Et donc du coup, il a fait du conseil à toutes les pharmacies sur comment bien présenter bien organiser pour mieux vendre, quoi. Donc t'as eu des trucs comme ça qui ont été assez marrants. Et si tu veux, l'effet que ça a eu, c'est que il y a plein de gens qui se sont dit c'est à portée de main. T'as eu une émulsion dans ce cours qui était dingue, quoi. T'avais une énergie, si tu veux. Enfin, c'est ça que je retiens du Congo. C'est surtout ce projet. Et dans la rue, on m'appelait Monsieur le Marketeur. C'est très drôle.
Ils ont indirectement découvert l'entrepreneuriat, en fait, sans s'en rendre compte, au final.
Ouais, c'est ça. Bon, après, le cours s'appelait quand même entrepreneuriat, mais...
Oui, mais c'est une expérience qui peut paraître quand même très, très basique, mais finalement, les leçons derrière vont être folles pour les étudiants, je pense.
Ouais, et puis, alors, ce qui était intéressant et que je voulais vérifier dans Cora, là, le truc... je sais pas si tu connais ce site de Q&A. Y a un truc qui était un peu le résultat de l'étude que j'ai constaté aussi, c'est que, en fait, finalement, l'argent que tu donnes, si tu t'en sers, c'est presque les projets qui réussissent le moins. Et tu vois, 15 dollars, c'est pas suffisamment significatif, et puis il y avait pas suffisamment de temps pour pouvoir les utiliser bien, quoi. Donc le biais qui était pris, c'était de faire de l'achat-vente. Et finalement, les gens qui réussissaient le mieux, c'est ceux qui s'en foutaient, en fait, qui n'utilisaient pas ces 15 dollars et qui faisaient du service en si peu de temps, en fait. C'est ça le truc qui marchait le mieux.
Alors du coup, après cette expérience au Congo, tu reviens en France. Ouais. Comment ça se passe, ce retour en France, après cette expérience qui j'imagine, t'as quand même marqué profondément. Comment ça se passe, la suite ?
La vérité, c'est que j'étais paumé, quoi. J'avais une idée. En fait, l'ONG qui nous a envoyé faisait un truc pas mal, qui est que tu t'écris un projet pour ton retour. C'est un peu, ils ont appris ça par l'expérience, quoi, qui est quand tu prévois un truc, généralement, tu reviens un peu moins paumé. Mais bon, la vérité, c'est que quand t'as vécu dans une culture complètement différente, que t'as bossé H24, tu vois, on bossait le week-end, on était vraiment à fond dans la mission. Bon, en fait, tu reviens là et t'es complètement hors sol, hein. Pour te donner une anecdote, quand on a pris l'autoroute en revenant de Roissy, on s'est dit, putain, c'est dingue, il n'y a pas de boss. c'est un truc dont c'est ma belle-mère qui est venue nous chercher à l'aéroport. Enfin, en fait, on ne se rend pas compte du décalage culturel, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, le retour, il est un peu aride, quoi. Il est un peu dur. Donc moi, j'avais quand même une idée que je m'étais notée, c'est j'avais très envie, tu vois, je parlais tout à l'heure du fait qu'on n'avait pas tout à fait la même vision avec mes associés, j'avais très envie de faire un truc qui était de faire la généralisation de ce qu'on avait fait sur Google Ads et de finalement partir sur une techno qui te permet de piloter tes achats publicitaires sur un truc qui s'appelle le RTB, le Real Time Bidding, l'achat publicitaire aux enchères, l'achat display en fait, tu vois, les bannières et les carrés. Et en fait, la vérité, c'est que, tu vois, j'étais pas en phase avec ce projet-là parce que j'avais vachement évolué. Et du coup, ouais, j'étais décalé. Donc, j'ai quand même essayé de lancer mon truc. Mon résultat des courses, en fait, ça m'a coûté assez cher parce que il fallait les tester, tu vois, de l'achat publicitaire. Voilà. Et puis, en fait, j'ai perdu vachement de temps. Il y a quand même un truc qui a été top, qui s'est passé pendant cette période, c'est que quand j'étais à Doolit, j'avais un stagiaire, tu vois, qui était très très fort, quoi. Quand il est arrivé, il challengeait des CDI qui avaient plusieurs années d'expérience et tout. Et du coup, ce mec m'appelle, Jérôme, et me dit, ben voilà, là, je suis un peu, enfin voilà. Je suis un peu entre deux projets, ça fait un an que je bosse pas et du coup j'ai vu que t'étais rentré, est-ce qu'on ferait pas un truc à deux quoi? Et du coup je lui ai dit bah ouais mais j'ai pas de quoi te payer et puis j'ai dépensé beaucoup d'argent etc, j'ai dépensé une partie de ce que j'avais gagné dans l'aventure précédente. Et donc bah, il m'a quand même rejoint tu vois, au début il était payé au SMIG. Et donc du coup bah, par la force des choses Jérôme est devenu mon associé et tu vois, ce mec est dingue, quoi. Et je pense que si on n'avait pas vécu... Enfin, la période d'errance qu'on a eue ensuite nous a permis de forger le binôme, quoi. Et donc, à ce moment-là, on a testé pas mal de choses.
Donc, c'est ton associé chez The Tribe, du coup.
Ouais, c'est mon associé chez The Tribe, okay.
Donc là, on est fin 2015.
Ouais, exactement.
C'est ça.
On est... Non, on n'est pas fin 2015, on est fin 2014. Je reviens du Congo. Okay. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on a peu d'argent et du coup, pas de projet. Donc, on se met à rentrer dans des opportunités de marché qu'on connaît. Donc, on essaie, tu vois, de faire une marketplace de vente de leads parce que c'est un univers que je connais bien. Puis, on tombe dans une niche. Voilà, je t'avais parlé des travaux que je connaissais bien. En fait, on tombe dans la niche... de la livraison de béton qui est une micro niche, on le sait en fait. Et à ce moment-là, en fait, c'est une période qui est pas facile. Si tu veux, on a envie de faire, on étudie pas suffisamment le marché. Enfin, tu vois, et finalement, bah, on s'y met. Et de cette période-là, en fait, bah, Allo Béton naît. Donc, Allo de Béton, c'est une marketplace de vente de béton par internet. Et du coup, c'est un business, on a l'intuition dès le début que ça va pas être un énorme truc, quoi. Bon, aujourd'hui, ça fait une boîte, une belle boîte de 6 personnes et qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça va, tu vois. Mais on le sait directement, quoi. Et donc, du coup, on se met à tester.
C'est un bon side project.
Ouais, exactement. Exactement. Et on se le fait un peu en se disant, bah, on aura peut-être d'autres idées par la suite, etc. Bon. On a lancé pas mal de trucs. Hein. On a essayé de. J'aimais bien Quora à l'époque, donc on essaie de monter un Quora-like. Voilà, il se trouve que ça marche pas, ça met du temps en référencement naturel. Bon, c'est un projet qu'on a fermé maintenant, mais tu vois, on a eu une période pendant 18 mois, on a testé pas mal de trucs, et de cette période, il reste Allo Béton aujourd'hui, quoi. Et c'est presque tout. Moi, il y a un moment, j'ai quand même dû gagner de l'argent, donc j'ai repris une activité de freelance SEO. Et bon, par la suite, ça s'est vachement développé. Donc, ça a donné une de mes boîtes que j'ai aujourd'hui qui s'appelle Rankabili, où il y a un petit 10 personnes, quoi. Donc, tu vois que je dirige plus du tout aujourd'hui, mais je suis l'actionnaire majoritaire. Et donc, bah, Allo Béton et Rankabili, c'est des projets aujourd'hui, tu vois, ça m'occupe entre 1 et 2 heures par semaine et il y a des DG, ça tourne. Et puis, au bout de 18 mois, on se dit putain, quand même, faut qu'on fasse un truc qui marche parce que on peut pas galérer toute notre vie, quoi. et là, il se passe une espèce de concours de circonstances, tu vois, qui fait que on a une subvention pour Allo Béton, et à l'époque, BPI te file de la thune que si tu le dépenses à l'extérieur. Ils veulent surtout pas dépenser, enfin, ils veulent surtout pas que tu utilises leurs subventions pour financer des frais de fonctionnement. Et donc, du coup, ils nous disent, on sait que vous savez développer, mais allez voir des agences de dev, parce que c'est la règle, quoi. Donc, à ce moment-là, on va avoir des agences de dev. Et puis, on va avoir aussi des ESN, enfin, ce qu'on appelle à l'époque des SS2D, quoi. Et là, en fait, c'est le choc. On tombe de notre chaise. Et on se dit, mais putain, pourquoi ça marche comme ça, quoi? Donc, tu vois, le premier truc qui nous demande, c'est souvent la même approche, hein, c'est quel est ton budget? Ok, t'as 20 000 balles. Bon, bah, très bien, bah, en fait, on est à 500 euros à jour. Et donc, du coup, bah, ça va faire 40 GH. Et point barre, quoi. À la limite, ce que tu vas faire, c'est tu l'utilises comme tu veux. Donc, on se dit, bah, il y a un problème parce que on réfléchit pas à ce qu'on peut faire. On nous aide pas forcément à prendre de la hauteur si on fait appel à un externe, bah, tu vois, c'est ce qu'on vient chercher. Donc bref, on met ça dans un coin de notre tête. Bon, finalement, BPI a accepté que, comme on leur a dit qu'on était déçus, ils ont accepté de nous filer la thune pour l'interne, quoi. Et puis, le deuxième truc qui se passe, c'est que je passe un week-end avec un copain qui bosse en ESN. Et qui me dit, bah, en fait, ma vie est nulle, quoi. Ma vie est nulle parce que je suis dans une boîte qui est une énorme machine. Je remonte des problèmes. À ce moment-là, c'est un mec qui est assez visionnaire parce qu'il se dit, je pense que l'expérience passera par, tu vois, à la fois des designers d'usage et du front. Et j'ai cette conviction-là et j'essaie de la pousser dans ma SS2I et en fait, personne ne m'écoute. Donc, vachement malheureux. Et puis, à nous dire, bah, en fait, on progresse pas. Enfin, bref, je comprends pas à quoi ça sert une ESN et j'ai un peu l'impression que mes copains qui sont dans des grands éditeurs, c'est un peu la même chose. C'est des numéros dans des gros, c'est des petits trous dans des grands engrenages, quoi.
Puis des process des enfers, quoi, en termes de fonctionnement.
Ouais, ouais, et puis pas du tout de marge de manœuvre, etc. Donc c'est, à vrai dire, c'est ça qui nous a poussé à monter The Tribe. Tu vois, je passe un week-end avec lui et à la fin du week-end, je suis désespéré, quoi. Je suis désespéré pour eux, quoi. Je me dis, mais enfin, moi, j'essaie d'entreprendre. À la limite, je gagne pas de thunes, mais je suis quand même heureux. Et lui, bah, il est dans une cage, quoi, qui est dorée parce que on le paye, etc. Et puis, donc, j'en parle à Jérôme qui me dit, ah, bah, c'est marrant. En fait, j'ai la même intuition parce que tu vois, il déjeunait, il se faisait un déj par semaine avec un mec qui faisait de la BI depuis 5 ans et qui était en école d'ingé avec lui. Donc, enfin bref, à ce moment-là, on se dit, bah, des deux côtés, il y a un problème et il faut vraiment qu'on renverse la table. Et c'est à ce moment-là qu'on crée The Tribe. Et si tu veux, le premier truc qu'on fait pour The Tribe, c'est on sort un one-pager, quoi, un site qui décrit la proposition de valeur. Et en fait, on se dit d'abord, c'est quoi les valeurs qu'on a envie d'installer chez The Tribe, quoi. Au début, on voulait s'appeler The Family. Bon, c'était pris, tu vois. Un peu avec cette idée de créer une communauté hyper forte avec des valeurs et un truc qui où individuellement, tu t'épanouis, mais tu fais partie d'un groupe. Et ce groupe va être soudé, va avancer dans la même direction, quoi. Et donc... finalement, tu vois, les deux problèmes qu'on a vus au départ, c'est ce qui a fait la révolte et la raison d'être de The Tribe, et c'est ça qui nous a poussé au cul pour avancer, quoi. C'est qu'on s'est dit, c'est juste pas possible que le monde fonctionne comme ça, et on va corriger rapidement ce bug dans la société, quoi.
Donc, ouais, ouais. C'est de voir le fonctionnement actuel de toutes ces agences qui vendent un peu du n'importe quoi, quoi. C'est et qui ont effectivement des process beaucoup trop complexes.
Ouais, c'est comment tu peux faire pour que les gens à l'intérieur, tu vois, les gens qui produisent finalement soient pas prises comme des unités de prod, quoi. C'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Comment, du coup, tu les fais contribuer au projet pour que ils l'enrichissent, ils donnent leurs idées, etc. Comment tu fais pour qu'ils progressent? Comment tu fais pour que ils atteignent des aspirations qui peut-être sont plus profondes, tu vois? On parle pas mal, juste avant, j'étais avec quelqu'un en one-one que j'aime beaucoup et que je suis, tu vois. Je parle d'un truc que moi j'appelle les trois carrés. En gros, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans trois ans, ça c'est ton carré de droite. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qui peut t'épanouir et qui demain va prendre le rôle que aujourd'hui tu as dans l'organisation, quoi. En gros, comment tu te libères d'un côté de ton rôle actuel pour créer ton futur, et aussi comment tu regardes le présent pour que ça t'épanouisse, quoi. Et c'est un truc tout simple que j'appelle, enfin, qui s'appelle les trois carrés, que j'ai lu dans un bouquin de Lean Management, et qui en fait permet de poser les bonnes questions, quoi. Et du coup, tu vois, ce que j'aime bien en fait dans ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de se poser la question, même si c'est à l'extérieur de The Tribe, comment tu fais pour que les gens s'épanouissent, quoi, et qu'ils deviennent ce vers quoi ils veulent tendre. Donc c'est pas toujours facile parce que les gens ont pas ce niveau d'introspection, mais ça, c'était un truc qui était très très présent au départ et qui faisait partie des deux révoltes qu'on a eues, quoi. Et puis après, t'as aussi le côté client, où on s'est dit que vraiment ce qu'on voulait, c'est que 1 euro dépensé à The Tribe soit un euro où le mec il trouve son compte en face, quoi. Le client trouve de la valeur, etc. Donc c'est ça vraiment qui a fait le début de l'aventure. Puis on a eu de la chance au démarrage.
Ouais, on aura l'occasion de parler un peu plus des valeurs et de la culture dans la partie d'après. Là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu les grandes étapes de The Tribe à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait sur ces 6-7 ans, on va dire.
Bah, c'est clair que ça a bien évolué, puisque aujourd'hui, tu vois, on est presque 95. Bah, au tout début, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a chopé un projet qui nous a occupé 4 personnes. Et ça, en fait, quand t'es une boîte de 6, bah, c'est ouf, quoi. Donc, 4 personnes sur 6 mois. Donc ça, ça a été le premier truc qui nous a fait du bien et qui nous a permis à la fois de réfléchir sereinement à là où on voulait aller et en même temps, tu vois, d'avoir les moyens financiers de faire ça. Et puis au tout début, en fait, si tu veux, jusqu'à 15 personnes, ce qui était important, c'était de bien réfléchir au process, à ce qu'on voulait faire pour les clients, les approches qu'on voulait utiliser. Donc très vite, tu vois, on s'est inspiré de Lean Startup, la méthode finalement qui rationalise beaucoup d'intuition. Enfin, grosso modo, si je te la résume, c'est quand tu lances un business autour d'une proposition de valeur, en gros, ce qu'il faut, c'est que très rapidement, tu identifies les hypothèses qui vont faire que ça marche ou que ça marche pas, et que tu dérisques ces hypothèses une par une. Tu vois, en prenant les moyens minimums qu'on appelle MVP, quoi, le plus petit produit qui fait que tu arrives à prouver ou à invalider ton hypothèse, et puis tu passes à la suivante et tu crantes, quoi. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, mais l'idée initiale, c'était celle-là. À vrai dire, en fait, ça n'a pas été hyper simple parce que tu as aussi des enjeux sur les 15 premières personnes économiques, quoi. Il y a des moments où on a lâché ça, en fait, très fort pour plus se concentrer sur comment on produit bien. Et voilà, et en fait, toujours en se disant, si je me contente de faire de la prod, en fait, eh ben, j'oublie une des deux révoltes du début qui fait que on est The Tribe, quoi. Donc c'est l'idée. Donc jusqu'à 15 personnes on a fait ça, et puis à 15 personnes, c'est le moment où ton orga, elle bascule beaucoup. Tu passes d'un petit groupe de personnes que tu croises à la machine à café, à un groupe où tu peux plus discuter avec tout le monde tous les jours. Et donc là, il y a un truc important qui a basculé. Et si tu veux, un peu dans notre idée de faire en sorte que tout le monde participe, on a cherché à ce moment-là à structurer un peu une démarche participative qui permettait à chacun de contribuer à l'aventure. Alors, on l'a pas forcément hyper bien fait tout le temps, on s'est beaucoup cherché, hein. Donc, je veux pas forcément
c'est
rentrer.
Ouais. C'est normal de beaucoup se chercher.
Yes. Donc, tu vois, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a lancé un truc qu'on a appelé les squads, donc des groupes de 4 personnes qui taclent un sujet d'orga interne, en laissant beaucoup de marge de manœuvre sur comment ce groupe-là décide de faire. Donc voilà, donc ça c'était une première initiative, et puis qu'on a fait évoluer pas mal par la suite. Ça nous a permis de passer l'étape d'après, quoi, de régler les problèmes avec des groupes qui se déstaffent, qui se retirent de la prod. À l'époque, en fait, si tu veux, jusqu'à 20 personnes, on n'avait pas de fonction support, t'avais que des gens à la prod, quoi. Ma vision initiale naïve, c'était que on n'aurait que des gens à la prod et que, si tu veux, on distribuerait complètement les rôles sur des développeurs, parce qu'à l'époque, on n'avait que des développeurs. Et un jour, t'as un dev qui est venu me voir, qui était un dev spécial parce qu'il avait été commercial et puis s'était reconverti. Il m'a dit, mais en fait, Benoît, tu te mens sur le modèle parce que toi, certes, t'as été dev à un moment, mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est du biz dev et tu fais que ça, en fait. Et donc, du coup... Ça nous a fait évoluer, on a changé de paradigme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé, tu vois, de garder une dynamique collective avec les fonctions support qu'on a onboardées. Et maintenant, on a beaucoup itéré sur notre mode d'orga pour construire ce qu'on appelle le build. Le build, c'est ce qui n'est pas du run, quoi. C'est ce qui permet à la boîte d'évoluer. Et si tu veux, je te reparlerai dans la partie culture. Je pense que c'est... On a maintenant 3-4 ans de recul sur ces méthodes-là, quoi. Donc on a fait énormément évoluer.
J'ai rajouté une question l'année dernière dans mes podcasts, forcément par rapport au contexte. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur The Tribe, positif ou négatif?
Bah, si tu veux, déjà avant la pandémie, on faisait beaucoup de remote. Donc nous, on n'a pas forcément vu les conséquences tout de suite. C'était une période où on était ras la gueule de business, on avait beaucoup de business d'avance, etc. Donc on a eu un petit peu peur à un moment parce que nous, on a un business qui est vraiment lié à la confiance. En fait, les gens investissent dans des outils, dans des applis web et mobile parce qu'ils ont confiance dans l'avenir. Etc. Donc il y a un moment où on a vu notre carnet de commandes rétrécir parce que les gens avaient peur, et puis très vite ils sont revenus en disant on a été débiles, finalement c'est pas si grave et on va investir quand même. Mais finalement on a eu zéro intercontrat, tu vois. Par contre il y a eu des effets induits plus lents, notamment en fait sur un fonctionnement agence, tu peux avoir des coups de bourre, et en fait ces coups de bourre, quand tu es en présentiel, tu les vois. Tu vois les gens qui transpirent et qui voilà, et donc tu sais, nous on est une boîte qui est fondamentalement basée sur l'humain, et du coup on prend vachement soin des gens. Ça fait partie de, c'est une des quatre valeurs de la boîte, hein. Partager le quotidien de la tribu, éveiller sur les autres, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin, on fait des phrases pour les valeurs, c'est beaucoup plus explicite. Et du coup ça, on a manqué des situations comme ça. Et finalement ce qui s'est passé, tu vois, c'est que au sortir de la crise, enfin 18 mois après, en fait, là, on a eu 4 burn-out en très peu de temps. Et du coup, si tu veux, c'est, enfin, alors les situations sont toutes hyper différentes. Donc, on a du mal, si tu veux, à se dire qu'il y a une cause racine, etc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Mais ce que ça nous a fait dire, c'est que on s'était pas suffisamment, on n'avait pas suffisamment vu les choses, et qu'il fallait qu'on fasse évoluer notre modèle, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué ce qu'on fait avec nos clients, on se l'est appliqué à nous-mêmes. On a une méthode qu'on appelle le design sprint, hein, qui est une méthode qui vient de Google Venture, qu'on s'est appliqué à nous-mêmes pour trouver une solution, pour trouver déjà la cause racine du problème. En fait, en vrai, les causes racines sont multiples, t'en as plein. Et du coup, on l'a adressé par une solution créative qu'on a très vite testée, en fait. Et puis là, on est sur la deuxième phase de test, quoi, si tu veux. Bon, on a patché les problèmes aussi, hein, donc tu vois.
C'est quoi du coup cette méthode, le design sprint?
Ouais, alors en 5 jours, ce que tu fais, c'est que tu poses une problématique. Donc ça, c'est ta première journée. Ta première journée, en fait, tu retraces tous les cas qui se sont passés. Tu partages de la connaissance. Et donc, à ce moment-là, tu peux avoir des gens qui ont fait des recherches. Nous, on a interviewé 20 personnes avant de faire le design sprint. Donc, c'est un designer qui fait ce travail de user research amont, donc qui a un guide d'entretien et qui le dépile, quoi, et qui te donne la matière de base pour bien comprendre le problème. Au bout de cette première journée, en fait, tu poses la problématique. Et puis après, pendant les, donc ça, tu fais ça la première journée, et puis après, pendant les 4 jours restants, tu fais ce qu'on appelle de la divergence. Donc chacun donne des idées, en fait, qui permettent voilà, d'être assez créatif sur des solutions. Et puis après, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas identifier les meilleures sous-idées des idées. En fait, le jeu en design sprint, c'est de faire en sorte que les idées qui soient données, elles ne soient pas trop abouties pour qu'on évite de s'obstiner dans un sens. Et si tu veux, le design sprint, ça consiste à faire que des jeux de construction des constructions pour éviter de se figer dans un truc, de se borner, quoi. Ça arrive souvent en entreprise que des gens aient des convictions très fortes parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur les choses. Et en fait, ça part du principe que quand tu travailles sur quelque chose, tu deviens amoureux de ton travail, mais tu choisis plus ce qui a du sens. Donc, divergence, et puis après, convergence par partie. Une fois que tu as convergé, en fait, sur les meilleures petites choses de chaque idée, tu re-racontes l'histoire d'une personne qui est en surcharge, par exemple, dans ce cas-là. Et avec ce que tu as en tête des meilleures idées, en fait, tu arrives à trouver la meilleure solution globale, en fait, qui part de ces petites idées et qui permet de re-raconter une histoire qui est cohérente. Quoi. Et en fait, ce qui se passe assez naturellement et qui est fabuleux, c'est qu'en re-racontant l'histoire, tu évites toutes les meilleures idées qui sont anecdotiques et qui vont finalement, qui sont très élégantes, prises à elles seules, mais qui, quand tu re-racontes l'histoire, elles sont pas cohérentes, en fait. C'est du bruit, en fait. Et du coup, c'est une manière de converger vers une idée globale. Et puis, ce que tu fais à la fin du design sprint, c'est que ta dernière journée, tu vas tester ton idée globale, qui est matérialisée sous forme de wireframe. Enfin, il faut que ce soit très visuel, quoi. Tu vois, typiquement, ce qu'on a fait sur la surcharge, c'est assez simple, hein, c'est que notre solution, elle se base sur 3 choses très simples qui sont un rituel que tu passes avec un pair où il va challenger tes priorités et il va te challenger pour voir si tu es en surcharge. Donc ça, c'est une fois par semaine. Il va te demander si tu peux pas déléguer des choses. Enfin, c'est vraiment... Après, c'est la liberté de la personne qui est coachée, mais c'est dans les deux sens, en fait. Si tu veux, c'est sa liberté de choisir ce qu'elle veut garder ou pas. Et si elle veut plus travailler, au moins elle est au courant qu'elle travaille plus que la normale, quoi. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est, si tu veux, dans l'agenda, en fait, on sacralise des périodes qui sont soit que pour le client, soit que pour l'interne, et c'est transparent pour le client. Des moments où on arrête d'être perturbé, en fait, tu vois, par les Slack, des moments où on peut pas poser le meeting et on est forcé à se concentrer, tu vois. Et puis après, tu as quelque chose qui fait le lien entre ce qu'on appelait référentiel. C'est chez nous, on n'a pas mis encore en place les OKR, et en gros, il manquait un lien entre l'action collective et l'action individuelle. Et donc ça, on a fait un système de to-do list qui se raccroche à ton référentiel, qui ressemble un peu aux OKR, quoi. Et donc ça, on va le tester là dans les prochaines semaines, donc vachement intéressant.
Ok, super, super intéressant. Ouais. Et pour finir un peu sur The Tribe, avant de passer sur le fait de créer une culture forte, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur The Tribe et aussi un peu les objectifs futurs des prochains mois pour The Tribe?
Ouais, donc là, si tu veux, on est 95. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a commencé l'année, on était entre 45 et 50, je sais plus bien, mais tu vois, on a presque multiplié par deux cette année. Donc, on va finir à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas du tout notre chiffre d'affaires. Si tu prends le dernier mois et que tu le lisses, on est à bien plus que ça, mais enfin, la boîte, elle est en très forte croissance, quoi. Donc, voilà. Notre modèle d'organisation, il est un peu spécial puisque au tout début, et ça, c'est un des postulats de base, on s'est dit qu'on voulait créer des boîtes de 60 personnes maximum tout en grossissant. En fait, on a étudié la dynamique humaine et on s'appelle The Tribe pas pour rien. On a regardé ce qui se passait dans les tribus amérindiennes. Enfin, on a regardé pas mal de choses, si tu veux. Finalement, on s'est arrêté sur The Tribe. Mais... Et ce qui se passe dans les tribus amérindiennes, c'est que entre 60 et 70 personnes, une tribu va se scinder. Parce que à 70 personnes, tu peux pas forcément connaître les talents de chacun, tu peux pas raconter forcément quelque chose de personnel sur chacun, etc. Et du coup, nous, avec notre modèle de cohésion forte, on a voulu garder ça, mais tout en grossissant et en ayant un impact local. Et donc, du coup, notre modèle d'organisation, c'est d'ouvrir des tribus, des bureaux qui font 60-65 personnes maximum. Donc, on a commencé par Nantes. Puis l'année dernière, on a lancé Paris. Paris était un peu plus de 20 personnes maintenant. On a lancé Lille en parallèle de monter un bureau 100% télétravail qui est focalisé sur le remote. Donc là, aujourd'hui, on a quatre tribus qui sont Nantes, qui est presque arrivée à maturité, Paris, Lille et The Tribe Mobile. Ouais, donc l'année prochaine, ce qu'on a prévu de faire en 2022, hein, c'est d'embaucher 70 personnes.
Donc quasiment x2, quoi.
Ouais, quasiment x2, exactement.
Donc, grosse croissance à prévoir, quoi.
Ouais, et si tu veux, ce qui compte pour nous, c'est de développer le modèle, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on fait que de progresser sur plein d'aspects différents, à la fois sur notre métier, sur notre orga interne. On se pose pas mal de questions sur comment réinventer les choses pour, responsabiliser plus les gens, faire en sorte qu'ils soient épanouis. Tu vois, chez The Tribe Nantes, qui est... le modèle à maturité, on organise les choses en ce qu'on appelle des équipes stables, des petites équipes de 8 personnes. Et du coup, ces équipes, on essaie de leur donner le maximum d'autonomie possible. Et on leur donne aussi un champ commercial, on les aide à se staffer elles-mêmes. Enfin, en fait, on essaie de construire une culture où l'autonomie laissée aux personnes, elle est importante, quoi. Voilà, tout n'est pas réussi, on se cherche pas mal, mais en fait, t'as une dynamique de dingue, quoi. Donc sur les autres tribes en création, bah c'est souvent très orienté client, les innovations. Tu vois, par exemple, The Tribe Lille, là, le truc sur lequel ils sont focalisés, c'est comment tu aides les boîtes à automatiser leur process interne avec du no-code. Ça, c'est la thèse du bureau. Et donc, sachant que sur le
bureau a son orientation, on va dire.
Exactement. Et on pousse à fond les bureaux à se singulariser. Alors, tu as quand même un tronc commun, parce que notre métier, c'est quand même de faire du product, donc c'est-à-dire de faire des applications web et mobile qui fassent des business, quoi, grosso modo.
Et comme ça, quand vous recevez un besoin, du coup, par exemple, dans une des agences, vous pouvez aussi la déplacer sur une autre agence, finalement, qui est plus experte sur ce sujet.
Ouais, exactement. Ça nous arrive beaucoup avec The Tribe Mobile, parce que eux, ils font que du mobile. Typiquement, c'est pas les mêmes technos, etc. C'est pas la même manière de faire du marketing. Donc, ouais. Et puis, sur le no-code, ça sera de plus en plus le cas aussi. Si tu veux, notre état d'esprit, pour dire deux mots sur ce qu'on fait auprès des clients, quoi, c'est que on en a ras-le-bol de développer pour développer, ça ne nous intéresse pas, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider des entrepreneurs à lancer des business. Et ça, c'est vraiment le truc qui est satisfaisant quand tu as quelqu'un qui vient avec une idée, qui ne sait pas par quel bout forcément prendre le truc, ou justement qui a une conviction, mais qui n'est pas forcément la bonne, de l'aider à se poser les bonnes questions et à se mettre dans un mindset d'apprentissage pour réussir son business, quoi. Et donc, bosser avec nous, c'est pas forcément toujours simple, parce que on va vraiment y aller quand on a la conviction que ça le fait, quoi, qu'on prend le problème du bon angle. Mais ça, en fait, cette conviction-là, on se la fait avec le client. Et si tu veux, moi, j'ai vraiment l'impression que à chaque fois, C'est assez ouf, hein. Le client, il est dans notre équipe. Alors, c'est celui qui a le plus de leadership sur le sujet parce que c'est important. C'est lui qui porte son idée. C'est lui qui a vu un problème sur le marché, qui a vu un problème dans sa boîte, qui a vu. Et donc, du coup, on est à l'encourager là-dessus, quoi. Mais il fait partie de notre équipe et on y va que si on est sûr que ça va le faire, quoi.
Ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la partie construire une culture forte. J'avais la partie bilan avant, mais je pense que je vais la déplacer. D'abord la culture, et ensuite on fera le bilan après. Sur cette culture, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent. La première, c'est quoi selon toi les bases un peu pour justement créer, développer une culture forte dans sa boîte? Et c'est quoi ce que vous avez testé et ce qui a marché chez The Tribe?
Ouais. Bon, en fait, si tu veux, on a eu une chance, c'est que au tout début de The Tribe, on a marqué, on s'est posé la question de c'était quoi les valeurs qui étaient importantes pour nous. Et donc, du coup, le jeu de valeurs, on l'a écrit avec Jérôme, donc on s'est vraiment posé la question de l'alignement là-dessus. Et finalement, ça nous a permis d'embaucher les gens qui partageaient ces valeurs, puisque très vite aussi, on en a parlé en entretien. Donc, et finalement, la constitution d'une culture, pour moi, le truc qui est le plus important, c'est que ton équipe de base, tu sais, les premières personnes que tu recrutes partagent ces valeurs-là. Et tu sais, je pense que les valeurs d'une boîte, c'est les valeurs les plus représentées parmi les individus. C'est vraiment ce que je sens, quoi. Que, en fait, finalement, c'est un filtre, et ce filtre fait que c'est un socle commun que tu partages, quoi. Et après, si tu veux, quand ce truc est créé des 15 personnes qui partagent les mêmes valeurs, t'as des anticorps qui se créent, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui partage pas les valeurs, qui rentre dans le groupe, ça se passe pas.
Ça va pas marcher.
Ça se passe pas bien, quoi. Mmh. Après, il y a un truc qui est intéressant. Une fois que ton groupe est suffisamment important, à 60, 70 personnes, c'est intéressant de faire venir de la diversité pour justement re-questionner ces valeurs, tu vois. Je crois pas mal, au-delà d'un certain nombre, à l'hybridation, quoi. Au fait que, tu peux même retrouver ça quand nous, on a fait ça, on avait des locaux plus gros que notre taille, et du coup, on a fait venir, on a hébergé d'autres boîtes. Et ben, le truc que je trouve intéressant, c'est que forcément, comme tu les côtoies à la machine à café, etc., ça te permet d'avoir beaucoup plus de perspectives sur ta boîte, quoi. En disant, putain, ils font ça comme ça, ils se parlent de telle manière, ils font telle chose. Et là, c'est intéressant parce que tu re-rentres dans un questionnement de pourquoi tu les fais, quoi. Pourquoi t'as ces valeurs-là. Si tu veux, ce qu'on fait, nous, pour faire vivre les valeurs, c'est que on fait plusieurs choses, hein. Tous les 18 mois, on fait un séminaire où... De la même manière qu'on fait des design sprints, on fait une phase de user research où on pose la question à chacun de pourquoi, quelles sont ses valeurs perso, quoi. Donc là, on fait un espèce de tableau où on met les valeurs de chacun, etc. On prend les valeurs qui sont les plus représentées. On fait pitcher pendant un séminaire une personne qui représente bien la valeur qui a été, le nuage de mots-clés qui apparaît, qui va influencer le groupe, en fait. Et du coup, après, on fait un atelier collaboratif qui nous permet de nous aligner autour d'une phrase qui représente bien la valeur, quoi. Donc c'est long, ça dure une journée. Enfin, la dernière fois qu'on l'a fait, on devait être 45, tu vois. Et donc, par contre, c'est des moments qui sont hyper forts où tu partages beaucoup de choses. T'as beaucoup de convictions de pourquoi telle chose est importante pour moi dans ma vie, quoi. Et ça, en fait, c'est un truc qui est très, très précieux, quoi, pour le groupe.
Pour toi, est-ce que c'est important de définir ces valeurs dès la création d'une société? Tu vois, par exemple, je vais monter une agence début d'année prochaine. Est-ce que pour toi, il faut les définir directement? Ou est-ce qu'il faut attendre le premier recrutement pour pouvoir les définir?
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas les définir, tu vas avoir une discussion très alignante avec ton associé. Et si tu veux, c'est ça qui est dingue, que vous allez vous parler de trucs dont vous n'avez pas forcément l'habitude de vous parler. Les valeurs perso de quelqu'un, en fait, c'est la résultante de son histoire, de ce qu'il a vécu, de pourquoi il fait les choses d'une certaine manière. Enfin, tu vois, en gros, c'est très perso, quoi. Et c'est un truc qui, à un moment, peut poser problème. Et le fait d'en parler, ça permet, tu vois, avec Jérôme, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Alors, en fait, on connaît les valeurs de, enfin, l'un de l'autre. Et en fait, on se respecte, on sait ce qu'on a en commun. Et ça, c'est un truc qui est ouf, quoi. Et qui, pour moi, fait partie d'une des deux choses qu'il faut faire à son associé. Avec son associé, la deuxième chose, c'est de faire une projection avec son associé. Enfin, se dire, c'est quoi mon objectif dans 3 ans, dans 7 ans, dans 15 ans, où je me vois un peu dans l'idéal, quel est mon objectif de vie, et de voir comment on peut se filer un coup de main à arriver à nos objectifs réciproques et comment on trouve un terrain d'entente qui fait que la boîte demain, elle respecte notre trajectoire perso. Enfin, alors, les trajectoires perso, elles évoluent et tout. Pour répondre à ta question, je pense que les valeurs, il faut en parler assez rapidement. Et ça permet aussi de recruter les bonnes personnes après, quoi.
Ok. Donc, dès le démarrage, tu penses que c'est une bonne idée, quoi.
Ouais, il y a tellement de boîtes où, si tu veux, les fondateurs sont plus chez eux dans leur boîte, quoi. Ouais, c'est un truc, tu vois, on accompagne énormément de startups de croissance. Hein.
C'est quelque chose que tu ressens, que tu vois fréquemment, du coup.
Ouais, ouais. Des décalages entre l'équipe qui a des valeurs induites, en fait, et le fondateur qui est complètement... qui est plus dans le game, quoi.
Qui est entré dans un tunnel et il arrive plus à en sortir, quoi.
Ouais, c'est ça, et qui est à côté de son équipe, quoi. Et qui, finalement, se retrouve à faire de la communication externe. Parce que en fait, il sait plus quoi foutre, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, le rôle d'un fondateur, c'est de faire en sorte que le collectif soit fort derrière sa conviction, quoi. Et du coup, y a deux choses qui sont difficiles quand t'es un leader, c'est un, d'avoir des convictions qui soient pas trop connes, quoi. Mais une conviction, pour moi, c'est quelque chose que t'as dans les tripes et que t'as aussi dans ta tête, quoi. Donc c'est les deux, en fait. C'est un truc que c'est quelque chose que tu supporterais pas qu'il se fasse pas, quoi. Et qui correspond à une réalité de marché, à, tu vois, un besoin de vrais gens. Et ça, pour moi, cette conviction permet d'attirer les premières personnes et ça permet de faire un collectif. Et ce collectif, après, il réfléchit à comment il va fonctionner, comment les gens vont fonctionner ensemble. Et du coup, ça, c'est les valeurs. Et du coup, tu vois, la conviction, pour moi, du leader, c'est ce qu'on appelle le why. C'est, tu sais, je sais pas si t'as lu, oui, Simon Sinek.
Start with why.
Ouais, exactement. Alors, il y a deux niveaux, hein. Il y a le why qui est le why profond, quoi. Et puis après, t'as la vision. La vision, c'est un truc beaucoup plus factuel de comment tu vas mettre en œuvre le why, tu vois. Et nous, notre vision, typiquement, c'est de faire en sorte que The Tribe soit reconnu. Tu vois, pour sa croissance, pour sa culture, pour sa capacité à innover, et qu'on soit vraiment reconnu pour à la fois notre métier, mais notre organisation interne, quoi. Donc ça, c'est la vision, mais la raison d'être, c'est quelque chose qui est assez différent. Ça se manifeste par la vision, mais notre raison d'être, c'est de faire en sorte que chacun puisse entreprendre des projets qui vont le faire kiffer, quoi, qui vont le rendre heureux. Donc, t'as une phrase toute faite, je te l'ai dit comme ça sortait, mais ça, enfin, on veut à la fois que nos clients entreprennent, on veut les aider à faire ça et de faire en sorte que ça les épanouisse vraiment, et puis on veut la même chose pour les salariés, en fait. On a une raison d'être qui correspond à nos deux révoltes. On a mis du temps à trouver ce que c'était, mais si tu veux, pour moi, les valeurs, c'est le comment, et le truc qui est aussi important, sur lequel c'est important aussi de s'aligner, c'est la raison d'être, quoi. C'est pourquoi, ouais, t'existes.
Et donc ça, cette raison d'être, tu l'as trouvée à quel moment, en fait? Plusieurs années après, ou...
Ouais, on l'a trouvée assez tard. Et à vrai dire, on s'est fait accompagner par une boîte pour ça. Une boîte formidable, hein, qui s'appelle Fly the Nest, qui accompagne pas mal de startups qui sont en croissance. Et ouais, ils nous ont aidés à faire ça. Moi, j'étais content de me faire aider par une boîte. Ça nous a permis de bien comprendre, de relire l'histoire, en fait, et de bien comprendre ce qui était important pour nous. Alors, tu vois, cette histoire des deux révoltes et tout, on en parlait depuis le début, donc c'était relativement latent. Enfin, c'était clair pour tout le monde. Tu vois. Mais ça nous a permis de mettre des mots sur pourquoi on avait fait on avait fait les choix qu'on avait fait, quelle était notre histoire, comment ça s'inscrivait dans quelque chose de plus grand, etc. Donc on l'a fait tard, hein. On a dû le faire il y a 2 ans, tu vois. Donc là, The Tribe a 6 ans. Hein.
Ouais, ça reste un exercice difficile parce que tu te retrouves quand même dans des choses assez, assez profondes. Une raison d'être d'une boîte, c'est c'est un chemin de vie en fait. Hein. Donc c'est particulier. Pour revenir aux valeurs, elles sont publiques, les valeurs de The Tribe, elles sont affichées sur le site.
Si tu vas sur le site internet, ouais, tu les verras. Elles sont sur la homepage.
Ok, tu peux en lister quelques-unes potentiellement ?
Ouais, alors la plus évidente, c'est partager le quotidien de la tribu et veiller sur les autres. On a une vie qui est assez communautaire finalement, tu vois, avec pas mal de rituels qui font que les gens sont des gens pour... chacun est quelqu'un pour un autre, quoi. Donc c'est ça qu'on a voulu faire dans le modèle de tribu à 60 personnes maximum, c'est que ce soit pas impersonnel, quoi. Et que tu saches pourquoi t'es là et qu'on s'aide à faire ça, quoi. Donc ça passe par pas mal d'événements, ça passe par ce process de séminaire tous les 6 mois qui nous permet de redéfinir quelle est la vision du bureau, donc c'est par bureau en fait. Donc, on a eu assez rapidement en fait l'envie d'aider les gens à progresser, donc la valeur s'appelle je progresse continuellement et j'en fais profiter les autres. L'idée que la progression ne doit pas être égoïste, mais doit aussi servir le collectif. Ça, c'est un truc qui est important. Une valeur qui est apparue récemment, là, dans le dernier séminaire, avoir confiance et être digne de confiance, c'est un truc qui était évident pour nous, mais qui est remonté comme étant très, très important pour tous les gens de The Trail. Finalement, l'idée de l'honnêteté intellectuelle, quoi. L'idée de... Et en fait, c'est peut-être la valeur qui, paradoxalement, est la plus difficile à vivre, parce que pour moi, la confiance, ça se crée surtout par des feedbacks, en fait. En gros, tu sais, dans les boîtes, t'as rapidement fait de mal vivre des situations, de rien dire, et puis à la fin, tu te barres tellement t'es vénère, quoi. Et du coup, notre enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que les gens se disent comment ils ont vécu les situations. Donc là, on a rajouté, il y a très peu de temps, tu vois, il y a quelques mois, en septembre, une formation dans l'onboarding, hein, dans les premiers jours des salariés, au feedback. Comment tu fais un feedback qui est bien, qui est constructif, qui utilise la CNV, la communication non-violente. Donc, et la dernière valeur, pour reboucler, c'est une valeur qui parle d'excellence, donc c'est tendre vers l'excellence à tous les niveaux. Et ça, on a pas mal de progrès à faire, mais si tu veux, nos champs d'expérimentation, là, ça tourne autour de ce qu'on appelle organisation apprenante. C'est comment tu construis une culture de knowledge management qui te permette de faire 2 choses, de t'apprendre de tes expériences quotidiennes, quoi. Comment tu remontes ça et tu en fais profiter les autres. Et puis de l'innovation de rupture, donc de la veille, de ce que tu lis, ce que tu vois aux US, etc. Il y a pas mal de choses qui évoluent, notamment dans les métiers du design et du product management. Donc, et puis du dev aussi. Hein. Le dev, en ce moment, t'as un truc qui est en train de pousser vachement fort, qui est tout ce qui est clean architecture. Donc, on a des champs d'investigation un peu partout. Mais...
Est-ce que t'as un ou deux tips à me donner pour, qui contribuent justement, selon toi, à développer la culture d'une boîte ?
Alors, pour la développer, en fait, je pense qu'il faut la faire vivre. Nous, on fait un truc que je trouve vachement fort. Alors, on fait pas ça avec tout le monde, mais il faudrait qu'on le démocratise plus dans la boîte, qui est ce qu'on appelle auto-évaluation valeur. Donc, ça consiste à... nous, on fait ça avec les leaders de chaque bureau régulièrement. Donc, un bureau, chez nous, t'as 2 leaders, quoi. T'as ce qu'on appelle le chef de tribu, et souvent, c'est le CTO, mais parfois, ça arrive que ce soit plus quelqu'un de product ou plus un sales. Ça dépend vraiment de leur charisme, quoi. C'est le binôme de tête, quoi. Et donc, on fait un truc avec Jérôme, c'est qu'on prend les 4 valeurs plus la raison d'être. On va se prendre 10 minutes pour s'auto-évaluer chacun. Donc, on se met une note, tu vois, sur 10. Et puis, on évalue aussi les autres, enfin, le ressenti qu'on a d'eux sur les valeurs. Et ensuite, on fait des tours de table par valeur. Donc, on va prendre la première valeur et chacun va dire, en commençant par soi, Moi, je pense que je suis là et je suis pas parfait pour telle et telle raison et mon champ de progression, il est sur tel et tel point, quoi. Et ce que je ressens de toi qui est autour de la table, c'est que sur cette valeur, tu es vachement bon sur tel point et tu peux progresser sur tel point. Et si tu veux, c'est ouf de vivre ça. On se partage des trucs qui sont assez profonds. Ça nous fait aussi nous rendre compte des progrès de chacun, quoi. Enfin, c'est assez fort, quoi. Voilà. Sinon, sur les valeurs, chacun peut aussi contribuer à apporter de nouvelles idées. On essaie de mettre en place des choses. En onboarding, t'as un partage des valeurs, mais qui est pas qu'un partage. On essaie de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et on affiche ce qui merde dans la boîte et ce qui marche bien sur telle et telle valeur. En fait, en gros, on n'est pas des supermen, quoi. Tu vois, c'est un truc qu'on essaie de déconstruire dans notre boîte. C'est de dire que on fait pas tout bien et par contre, on a des marges de progression et on veut pas rester dans la médiocrité. Par contre, on connaît nos champs d'amélioration, quoi. Pour te parler de la suite des valeurs, moi, j'ai la conviction qu'il nous manque un truc dans notre set de valeurs qui tourne autour de ce dont on vient de parler là. Un peu le droit à l'échec, la vulnérabilité, le fait de se montrer vrai, authentique. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'il apparaisse au prochain séminaire. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'en parle. Tu vois, je pense qu'en tant que founders, on a aussi ce rôle de discuter, d'attirer l'attention sur des choses qui nous paraissent importantes. Et je pense qu'on est au bon moment pour... tu vois, je sens ça, quoi. À un moment où on grandit vachement, et paradoxalement, en fait, quand tu grandis, tu as beaucoup plus d'individualisme qui peut monter. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle de cette valeur-là, quoi.
Et ça va être, j'imagine, un enjeu important quand vous allez, du coup, quasi doubler l'effectif, quoi.
Puis c'est ce qu'on vend à nos clients aussi, tu vois, le droit à l'échec, le fait de dire que on peut avoir des convictions, mais ce qui passe par-dessus tout, c'est d'apprendre, en fait, d'apprendre des choses. Et du coup, de se mettre dans un cadre qui fait qu'on va apprendre des choses. Et pour ça, il faut accepter une certaine vulnérabilité. Mais ça, c'est assez ouf, parce que quand tu dis ça à un client, il n'est pas forcément prêt à l'accepter, quoi. Quand tu lui dis « vas-y, on va se planter ensemble », il faut qu'il soit à un certain degré de maturité pour comprendre ça, quoi. Donc, ce qu'on lui dit, c'est que la succession des petits échecs crée une grande réussite. Tu vois, ça, c'est une phrase toute faite qui raconte ça. Mais
je pense que c'est un sujet hyper passionnant et qu'on pourrait en parler des heures. mais on est forcément limité un peu dans le temps, donc on va passer aux trois dernières parties du podcast qui sont tout aussi intéressantes. La prochaine, c'est la partie un peu bilan, où en fait, je vais opposer deux questions. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale? Je parle bien de cette aventure, The Tribe. Et ensuite, l'autre question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Ça peut-être te permettre aussi de prendre un peu de recul sur ces années depuis 2014.
Ce qui a été le plus dur, c'est le démarrage. Et c'est le juste avant The Tribe, quoi. Tu vois, aller au bureau et se dire tout ce que je fais, t'as rien qui marche, tu vois. C'est hyper dur. Donc ouais, ça j'en garde pas forcément un super bon souvenir, mais pour moi, ça nous a forgé, quoi. Donc ça fait partie du chemin. Ce dont je suis le plus fier, c'est assez simple, en fait. Tu vois, les gens qu'on a accompagnés, surtout les salariés, qui ont vachement progressé, pas progressé techniquement, mais progressé humainement. Quoi. Tu vois, par exemple, j'ai plein d'histoires à raconter, mais ça, c'est assez ouf. Et tu vois, c'est ce qui fait que je viens bosser. C'est ça qui me fout la banane, quoi, si tu veux. T'as plein de moments durs, en fait. Où il faut se battre, et en fait, le fait de se dire, ce truc-là, ça marche, on a fait évoluer des gens, etc., et puis on a accompagné des super histoires d'entrepreneurs aussi. Enfin, en fait, finalement, c'est la raison d'être qui me fait Enfin, quand on arrive à la réaliser, quoi, c'est ça qui est cool.
Mmh. Ok, quand l'objectif, entre guillemets, est aligné avec la réalisation, quoi. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Pourquoi les rencontres ? Parce que je pense que l'entrepreneuriat et même la vie en général est faite de rencontres. Aucune ref à Edouard Baer, même si j'apprécie l'homme. Évidemment, le mindset, parce que voilà, c'est, je pense que tout entrepreneur a un mindset qui nécessite justement de pouvoir affronter l'échec, les épreuves aussi pendant ses aventures. Et la première, c'est... Est-ce que tu peux me citer une ou deux rencontres qui ont le plus marqué ta vie ?
Ouais, alors il y en a plusieurs. Hein. Je pense qu'en école d'ingé, j'ai été beaucoup marqué par une personne qui nous donnait pas des cours techniques, mais qui nous donnait plutôt des cours sur entreprendre, etc. Je pense que c'est grâce à elle que j'ai fait le déclic, parce que si tu veux, ce qu'elle faisait aussi, c'est qu'elle identifiait les gens qui étaient en recherche et elle les aidait. Et ça, c'est ce qui m'a fait aller au bout de chez Entrepreneur, qui m'a foutu le coup de pied au cul quand il fallait. Enfin, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ouf. Je lui dois pas mal, quoi, tu vois. Après, il y a une rencontre qui m'a marqué, c'est celle de Erwan de Fly the Nest. Franchement, ils nous ont permis d'aller à l'étape d'après. Et en fait, je me posais pas mal de questions sur le leadership, sur pas mal de choses. Et du coup, c'est les discussions qu'on a eues qui m'ont fait évoluer sur un tas de sujets. Et puis, il m'a fait lire plein de trucs. Enfin, ça a été assez, assez ouf dans mon parcours, quoi. Et finalement, c'est une rencontre plus développement personnel. Et ça a entamé pas mal de mouvements chez moi depuis ces deux dernières années, quoi. Donc ça, je trouve ça assez fabuleux, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est des rencontres qui te permettent aussi de franchir un cap, on va dire. Deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui ?
Bah, c'est difficile de répondre. Enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup inspiré par les bouquins que je lis. Et je lis des trucs qui sont très, très différents. Je vais à la fois beaucoup lire de biopics. Typiquement, là, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un biopic qui n'a rien à voir avec nos métiers, etc. Mais... qui parle de l'histoire du roi Baudouin en Belgique, qui est un mec que je trouve assez fabuleux, quoi, avec des convictions et tout. Je trouve ça dingue. Mais je lis aussi, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, Une brève histoire de tout de Ken Wilber. Et ça, ça m'a beaucoup... ça a déclenché énormément de réflexions. J'ai lu un bouquin de... il y a quelques années qui encore... me marque pas mal, qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui est un super bouquin que je... Enfin, en fait, si tu veux, moi, je suis beaucoup inspiré par ce que je lis. Et je pense que c'est aussi des histoires de personnalité. J'ai fait il y a quelques années une formation qui m'a pas mal aidé, hein, qui s'appelle Ennéagramme. C'est une formation de connaissance de soi. Et qui m'a permis de décrypter la manière dont je fonctionnais. Enfin, tu vois, en gros, c'est assez schématique, Ennéagramme, mais et en fait, pour moi, la lecture, c'est le moment où je me connecte vraiment à ma rationalité, et ça me fait vachement de bien. Et moi, je m'inspire en lisant des trucs très, très différents, quoi.
Et c'est vrai, au départ, tu disais que c'était une question difficile, c'est vrai. Enfin, je peux témoigner dans le sens où c'est potentiellement, si on me la posait aujourd'hui, enfin il y a quelques mois, je n'aurais clairement pas su y répondre. Et c'est vrai que en discutant avec des amis, je me suis rendu compte de ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé un peu toutes les personnes qui m'inspiraient aujourd'hui, tu vois. Et il y en a plein. Enfin, ça peut être, ça va de Mouloud Dachour, par exemple, qui est je sais pas si tu connais, un intervieweur qui a créé son propre média qui s'appelle Click. Et lui, il m'inspire par sa manière d'interviewer, justement, avec bienveillance, sans se mettre en avant aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ça va aussi de Kian Kojandi, tu vois, qui, par la multitude des projets qu'il a créés, par sa créativité. Et je pense que c'est peut-être un rappel aussi aux gens qui écoutent le podcast, mais cette question, quelles sont les personnes qui m'inspirent ? Je pense que c'est une question importante et qu'il faut se poser. Et pourquoi pas, effectivement, lister des gens qui nous inspirent ou qui nous ont inspirés à un moment donné de notre vie. Et je pense que les gens qui nous inspirent, en fait, ça évolue tout le temps, en fait. Aujourd'hui, ça va pas être les mêmes que dans 6 mois ou il y a 6 mois. Et c'est des choses qui vont évoluer, en fait, tout le temps. Donc, je pense que c'est important de se le rappeler.
Ouais, ça me fait penser à un truc qui est, peut-être tu connais ça, le diagramme de Moreno.
Ok, ça me dit quelque chose.
Qui est un truc dans les organisations qui est... Enfin, qui a été utilisé, que j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui dit dans les organisations, chacun est source pour quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, du coup, tu peux faire le diagramme des gens qui inspirent les autres personnes et tu peux comme ça arriver à voir les réseaux dans les boîtes qui sont des réseaux de leadership, quoi.
Ok, c'est vraiment c'est super intéressant. Ça complète bien, effectivement, le sujet. Du coup, on passe à la dernière question de cette partie, qui est une question globale. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer ?
Bah, je pense que le vrai truc pour durer, c'est de faire quelque chose auquel on croit. C'est d'ailleurs un conseil que je donne pas mal aux entrepreneurs qu'on accompagne. Hein. C'est quoi le truc que tu as vraiment envie de faire, quoi, que tu as au fond des tripes ? Et du coup, moi, je pense vraiment que... on va loin quand on est très aligné avec ça, quoi. Et tu vois, l'entrepreneuriat, c'est hyper dur. Il y a plein de crises. Quand on commence à avoir des salariés, on rentre dans des questionnements qui sont parfois durs, arides, etc. Mais si tu sais pourquoi t'es là, en fait, t'es solide, quoi. Et du coup, se connecter à sa conviction profonde, je pense que c'est le truc le plus important, mais qui est dur.
Je suis totalement aligné. Dans ce que tu as dit, on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange. Ça va être quelques petites questions rapides, même si à chaque fois on a le temps quand même d'y répondre. Le premier, c'est du coup, je sais que tu lis pas mal. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Ouais, bah, je te conseille, si tu l'as pas lu, Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. C'est un super bouquin qui pose pas mal de questions, qui ouvre pas mal d'autres lectures en fait. Mais c'est un bouquin que j'aime beaucoup, surtout si tu veux lancer ton agence bientôt, là, qui parle finalement de comment tu construis une organisation qui te correspond et qui permet, tu vois, de respecter les personnes, de les faire rentrer dans un mindset qui leur permet de co-construire avec toi. Enfin, tu vois, c'est...
Sur de l'intelligence émotionnelle aussi, j'imagine.
Ouais, t'as ce champ-là qui est pas mal exploré, ouais, carrément.
Ok, super, super intéressant, ça m'intéresse. C'est quoi ta musique du moment ?
J'écoute, je pense, depuis 10 ans la même musique pour me concentrer. Baba Aurélie, je sais pas si tu connais ça, de The Who. J'avais vu que, tu sais, le mec de Germinal, là,
Grégoire Gambato,
faisait ça pour se concentrer, moi je fais la même chose.
Ok.
J'écoute la même musique, et en fait, direct... Ça me concentre, ça me focalise.
L'autre question, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle ?
C'est une bonne question. Peut-être Google.
Vengeance.
C'est ça, vengeance. Non, mais en vrai, je trouve que c'est une boîte qui se réinvente pas mal, qui innove beaucoup. Alors juste, je mettrais une limite, tu vois, c'est que... je pense qu'ils se mettent zéro barrière sur pas mal de sujets. Et pour moi, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et tu vois, notamment sur tout ce qui est bio, quoi, enfin transhumanisme, etc., ils font des choses que je trouve assez choquantes. Et du coup, pour répondre à ta question, je rachèterais Google, sauf cette partie-là.
Je comprends. L'avant-dernière question, c'est y a-t-il une question justement que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ?
Non, je pense qu'on a pas mal balayé de sujets, donc non.
Très bien. Et on passe à la dernière. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Un peu pour boucler la boucle... Erwan Rosier de Fly the Nest, je pense que c'est un mec intéressant. Et qui a en plus accompagné énormément d'entrepreneurs. Et tu vois, tu pourrais l'interviewer sur la création d'une dynamique collective ou le leadership, ou alors s'il peut te raconter un peu des points de blocage qui se répètent chez les entrepreneurs. Enfin, ça, c'est des discussions qui sont vraiment intéressantes et qui te renvoient à ta propre fragilité. Tu sais, on a tous des points de blocage. Et finalement, moi, ce que je constate hein, pour accompagner pas mal d'entrepreneurs, hein, c'est que les boîtes sont souvent limitées par les limites des entrepreneurs. Et du coup, Et parfois, t'en as qui s'en rendent même pas compte. Donc, on les aide.
Quand tu dis limite d'entrepreneur, c'est les barrières mentales notamment.
Ouais, exactement, les barrières mentales. Ouais. On a tous des barrières mentales qui sont vachement importantes. Je pense en avoir abordé plusieurs dans ce podcast. À des moments donnés, en fait, t'as des trucs à craquer. Et c'est pas facile parce que t'as des moments où naturellement, en étant entrepreneur, tu te fermes. Tu vois, moi, je suis plutôt de l'école à pas beaucoup écouter les conseils, parce que des conseils, t'en as 15 milliards des différents et tout, à la fin, tu peux facilement te perdre. Mais parfois, il y a des blocages qui sont évidents, et regarder à l'extérieur, ça aide énormément. Et lui, en fait, c'est l'apport qu'il a auprès de pas mal de boîtes.
Ok. Donc, je te le conseille. Je note la recommandation, je le contacterai. Je te remercie Benoît pour cet échange très cool. J'espère que ça t'a plu. J'espère aussi, toi qui nous as écouté pendant cette heure et demie d'échange, que ça t'a plu aussi, que t'as pas mal appris sur tous les sujets qu'on a abordés. Et puis je te souhaite plein de réussite, plein de bonheur aussi, c'est important pour la continuité de cette croissance de The Tribe. Et puis, ce que je peux te proposer, c'est qu'on se retrouve dans 2 ans, potentiellement.
Avec plaisir.
Et on discutera des 2 années qui sont passées, qui vont passer, du coup.
Merci, François. À plus.
Merci, Benoît. Ciao. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.